L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Mismatch, l'émission dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo. Elle est destinée aux professionnels, aux néophytes du média, mais aussi aux joueurs et joueuses. Je suis Damien Farjou, game designer de formation, consultant d'accessibilité de jeux vidéo et président de l'association Dear Valid People. Chaque semaine, nous mettrons en lumière, ensemble, chaque pièce du puzzle formant ce jeune domaine qu'est l'accessibilité de jeux vidéo. Étant moi-même handicapé, ma formation mêlée à mon expérience de vie m'ont amené à me spécialiser sur le sujet. Après avoir exploré 7 genres de jeux vidéo, il est temps de respirer un peu pour découvrir d'autres facettes. Nous l'avons survolé durant la chronique sur le marketing. Pour celle-ci, je vous propose d'approfondir la question des tests d'accessibilité. Totalement intégrés aujourd'hui, les tests critiques de jeux vidéo permettent de se forger un premier avis sur un titre. Elles sont formulées par des experts formant la presse vidéoludique. Ces critiques étaient écrites selon 4 thématiques. Narration, graphisme, gameplay, ergonomie. Aujourd'hui, elles sont distillées en points forts et points faibles. À l'image d'un trailer, l'expérience d'un jeu vidéo peut commencer ou évoluer avec une critique. Serait-il de les reproduire dans le domaine de l'accessibilité? Et si oui, comment? Dans le monde anglophone, on peut retrouver des sites sur l'accessibilité de jeux vidéo gérés par des personnes concernées. Ils reproduisent le fonctionnement des sites ordinaires avec un système de news pour connaître l'actualité de ce domaine. Nous allons retrouver des tests d'accessibilité dont les axes reprennent les 4 familles d'accessibilité. Motrice, visuelle, auditive, cognitive. Ici aussi, elles sont distillées en 2 catégories aujourd'hui, point fort et point faible. Avant tout, les fonctions d'accessibilité sont mises en avant. Ils permettent d'avoir un premier aperçu sur l'accessibilité de l'expérience afin que le joueur puisse acheter en toute connaissance de cause. Malheureusement, tous les titres existants ne donnent pas ce genre d'aperçu, obligeant alors les joueurs et joueuses à acheter et d'essayer par eux-mêmes. Suivant la politique de remboursement de la plateforme d'achat, les courants d'acheter un jeu se rendent compte qu'il n'est pas accessible pour nous et de ne pas pouvoir être remboursé. C'est là où un outil phare de jeux vidéo retrouve ses lettres de noblesse, la démo. Elle offrait un fragment jouable du jeu pour pouvoir donner envie. Dans notre cas, elle permet d'avoir un aperçu sur l'accessibilité du titre, de savoir directement en jouant s'il nous est accessible ou non. Malheureusement, elle est devenue une pratique rare et elle devient accessible que dans certaines conditions, comme en étant abonné sur le PlayStation Plus par exemple. Dans un futur idéal, l'accessibilité ne sera plus considérée comme une catégorie à part, mais comme une composante de la qualité d'une expérience. La promesse du jeu vidéo est d'être jouable par tous et toutes, mais pas forcément de l'apprécier. L'accessibilité donne ce choix-là. Cependant, je vous demanderai de garder à l'esprit une chose. L'accessibilité à 100% n'est qu'un mythe. Cela ne peut que créer une pression paralysante devant l'immensité de la tâche. Certaines options sont utiles pour plusieurs catégories de personnes, mais l'inverse est aussi vrai. Par contre, il y a toujours de l'espace pour l'amélioration. L'accessibilité n'est qu'un prisme sur la production de jeux vidéo à adopter au plus tôt. Les tests d'accessibilité ne sont pas à réaliser uniquement à la sortie d'un jeu, mais aussi pendant deux étapes. Les tests internes ou les bêta-tests. Les tests internes sont l'occasion de mettre à profit les personnes handicapées dans votre studio. En prenant le sujet sérieusement, il est possible de vous mettre aussi en situation approchant d'un handicap et d'avoir des premiers éléments de réponse. Comme je le disais tout à l'heure à propos des tests, l'accessibilité devrait être une composante aussi prise en compte lors des bêta-tests. Il est alors primordial de viser les personnes concernées via les associations ou les consultants rémunérés dans ce cas. Pour le prochain épisode, nous allons rester dans la thématique des tests. Il existe des lois sur l'accessibilité des produits numériques, notamment aux États-Unis. Je vais expliquer son fonctionnement ainsi que les tests de conformité d'accompagnant. Vous venez d'écouter Mismatch, une émission créée par un concerné pour des concernés.
L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.